Ça ira, qui est constamment dans le film, c'est pour moi merveilleux.
Et à Paris, nous avons choisi les deux femmes d'Un monde sans femmes, Laure Calamy et Constance Rousseau.
On aura tout vu en bilingue français-allemand.
Ich erkläre das 62. Festival von Berlin für eröffnet.
Le cinéma, c'est le samedi à 10h.
Ça ira.
Avec Christine Masson.
Ça ira.
Et Laurent Delmas.
France Inter. La différence.
Das ist klar. Voilà maintenant, là-bas, si j'y suis avec Daniel Mermet, son répondeur.
C'est vrai qu'on vit une époque anxiogène. Hein. Est-ce que Nicolas va finir par se présenter comme candidat, quoi? Parce que, comme disent les médias, mais c'est suspense, quoi! Alors moi, je me dis, je n'en peux plus, hein. Je n'en dors plus! C'est ma nuit, disons.
Brrr, qu'il fait froid, que je me caille. Pourquoi? Mais pourquoi suis-je revenu encore sur ce plateau, ce désert glacé des Glières? Bon, sois positif, Nico. Il y a beaucoup de neige. Je m'avance. Seul. Lentement. Ma silhouette noire fait merveille dans ce blanc immaculé. Les caméras, comme prévu, font leur boulot. Encore 30 mètres, et à moi le silencieux recueillement. Évalué au moins à 80 000 voix. Pourvu que les Savoyards du coin ne m'aient pas préparé une vacherie. C'est qu'ils ne m'aiment pas trop, ces montagnards. Que je me caille. Allez, tu es le père courage, Nico. Ne l'oublie pas. Avance. Pas trop vite. Rappelle-toi, le Mitterrand. Il allait doucement, la rose à la main. C'est Jackie. Adieu, le fils.
Petit poème de Victor Hugo en ce jour où notre président va annoncer sa candidature. Que peut-il tout? Qu'a-t-il fait? Rien. Avec cette pleine puissance, en 8 mois, un homme de génie eut changé la face de la France. De l'Europe peut-être. Seulement voilà, il a pris la France et n'en sait rien faire. Dieu sait pourtant que le président se démène. Il fait rage, il touche à tout, il court après les projets. Ne pouvant créer, il décrète, il cherche à donner le change sur sa nullité. C'est le mouvement perpétuel, mais hélas, cette roue tourne à vide. L'homme qui, après sa prise de pouvoir, a épousé une princesse étrangère, est un carriériste avantageux. Il aime la gloriole, les paillettes, les grands mots, ce qui sonne, ce qui brille, toutes les verroteries du pouvoir. Il a pour lui l'argent, la GIO, la banque, la bourse, le coffre-fort. Il a des caprices, il faut qu'il les satisfasse. Quand on mesure l'homme, et qu'on le trouve si petit, et qu'ensuite on mesure le succès et qu'on le trouve énorme, il est impossible que l'esprit n'éprouve pas quelques surprises. On y ajoutera le cynisme qu'à la France, il la foule aux pieds, lui rit au nez, la brave, la nie, l'insulte et la bafoue. Triste spectacle que celui du galop à travers l'absurde d'un homme médiocre échappé. C'était Agnès, des Hautes-Alpes.
Bonjour. Là, tout le monde se fixe sur l'attaque contre les communistes de la part de François Hollande, qui est dégueulasse, certes, mais enfin bon, on connaît Hollande. Mais j'ai l'impression que peu de gens quand même signalent le plus important de la phrase. La gauche a gouverné pendant 15 ans, pendant lesquels elle a libéralisé l'économie, et ouvert les marchés à la finance et à la privatisation. Il n'y a pas de crainte à avoir. Autrement dit, une traduction rapide pour les mal comprenants, au sujet du Parti Socialiste et de François Hollande en particulier, il soutient le traité de Lisbonne, il est pour la règle d'or, il a voté oui en 2005, il est contre la retraite à 60 ans, il est pour le traitement infligé aux Grecs, il est contre le SMIC à 1700 euros, et votera pour le futur traité. Voilà. Hollande a raison, la finance n'a pas de crainte à avoir, tout le monde peut comprendre ça. Alors avant de mettre votre bulletin dans l'urne, pensez très fort à ce qui se passe en Grèce.
Il y en a un dont on n'a absolument aucune nouvelle, et ça m'inquiète un peu. DSK, vous vous rappelez?
Bonjour Daniel, c'est Christophe à Toulon, je viens d'écouter ton émission sur la Hongrie, sur le podcast. Je voulais te remercier pour cette émission, tout simplement parce que c'est un pays auquel je suis attaché personnellement. J'ai rencontré ma femme en Hongrie et donc nous sommes une famille franco-hongroise et c'est un pays que j'ai réellement vu changer. Et entre 91 où on voyait ce pays qui sortait de la sphère communiste et qui était, je dirais, relativement un peu étranger à la société de consommation, et bien j'ai vu ce pays évoluer avec l'arrivée massive de supermarchés anglais et français, le changement total de la télévision avec l'arrivée de chaînes type berlusconienne, une société de consommation débridée. Et puis, curieusement, si tant est qu'on puisse trouver ça curieux, des salaires toujours extrêmement bas, des recours massifs au crédit qui sont généralement adossés aux francs suisses. Bon, ben aujourd'hui, la situation, elle est ce qu'on pouvait s'attendre à ce qu'elle soit. Elle est dramatique. On suit l'exemple de la Grèce, malheureusement. Et dans notre famille, en tout cas, ben on est très inquiet puisqu'on voit que la famille restée en Hongrie perd son emploi. J'ai un beau-frère qui a 5 enfants et qui vient de perdre son emploi. Et les gens sont plongés dans des situations dramatiques. Alors merci de sensibiliser tes auditeurs à cette situation et à ce qui pourrait bientôt arriver, probablement en France. Voilà, c'était Christophe, à Toulon. Au revoir. Je viens d'écouter l'émission sur la Hongrie. Si j'ai bien compris, la Hongrie était avec les Allemands en 14-18, à nouveau en 40-45. Les Hongrois se sont sentis humiliés par les Français. Peut-être ont-ils envoyé Sarko pour mettre le pays dans l'état qu'il est aujourd'hui. Salut.
Ah, vous croyez que c'est ça la revanche des Hongrois qui nous ont envoyé cette éminence pour se venger du traité de Trianon de 1920 par lequel la Hongrie s'est vue amputée des deux tiers de son territoire. Quelque chose dont on vous parle immédiatement lorsque vous arrivez en ce moment en Hongrie. Je dis en ce moment parce que ce thème, nationaliste, qui débouche sur l'irrédentisme hongrois, est très fréquent. On l'entend beaucoup dans cette Hongrie de Orban Viktor, dit « Viktator ». Et dans cette Hongrie dite Orbanistan. C'est là que nous allons aujourd'hui. Hongrie en marche arrière, 56 les tanks, 2012 les banques, pour parmi les causes de cette dérive, de cette Hongrie dite nauséabonde, le mot est beaucoup revenu dans la presse occidentale ces temps derniers, ces semaines dernières, pour voir que c'est peut-être la formidable misère, l'épouvantable misère dans laquelle vit une partie de ce pays qui peut expliquer ce qui arrive à nos voisins. C'est pas loin du tout, la Hongrie, nos voisins hongrois. Voilà notre thème du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassigissu au 01 56 40 37 37.
Hé hey, Loulou, plutôt que de bouffer des produits laitiers qui vont te coller du cholestérol à 50 ans, parce que t'en auras trop bouffé, du fromage et tout, tu veux pas manger de la bonne chair fraîche plutôt? Elle a l'air bonne la chair fraîche. Qui te donnera des beaux muscles et tout. Hein, Loulou, plutôt que de bouffer des produits laitiers, le cholestérol, c'est pas bon, mais des bons muscles là. Hein, de la bonne chair fraîche. Allez, Loulou.
Bonjour à tous, c'est Raphaël du Morbihan. Je voulais vous lire un petit texte, une petite déclaration en fait, de Thomas Jefferson, donc le troisième président des États-Unis de 1801 à 1809, qui a fait la déclaration suivante. Je pense que les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées entières prêtes au combat. Si le peuple américain permet un jour que des banques privées contrôlent leur monnaie, les banques et toutes les institutions qui fleuriront autour des banques priveront les gens de toute possession. D'abord par l'inflation, ensuite par la récession. Jusqu'au jour où leurs enfants se réveilleront, sans maison et sans toit, sur la terre que leurs parents ont conquis.
En Hongrie, il y a 1 million de gens qui sont pratiquement sous-alimentés et qui ont faim sans arrêt, sur 10 millions d'habitants, voilà.
Qu'est-ce que vous dites alors sur l'évolution du pays ?
Arriéré.
Arriéré ?
Oui.
Ah oui, c'est un retour
Je
en arrière.
Pleure. Oui.
A lényeg az, hogy ezeknek az embereknek a jelentős része a szegénységbe született, abban is él, és nagy valószínűséggel abban is fog meghalni.
L'essentiel, c'est que c'est des gens qui sont nés pauvres, et qui vont rester pauvres, et puis qui vont mourir pauvres. Nous, on n'est pas maître de notre destin, ça c'est clair et net. On joue avec nous.
Oui, ça c'est l'essentiel. Oui, oui. Pas maître de notre destin.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Antoine Chao, Hongrie en marche arrière.
Flight number 2, arriving from New York.
Comment tu appelles la place ?
Les Beatés.
Devant nous, il y a un palais, il y a un palais énorme, il y a un palais énorme, éclairé, très, c'est très moderne style ça, hein. C'est un, vraiment une pâtisserie énorme.
C'est la bourse des produits agricoles. Et surtout avant la Première Guerre mondiale, la Hongrie était le centre européen pour le commerce du blé, de la viande et tout. Et ça, c'était la bourse. Mais tout le monde boursicotait. À Budapest, tout le monde boursicotait à l'époque. C'est immense, hein.
Immense. C'est immense, immense.
L'ambassade américaine. L'ambassade américaine.
Banque centrale, ambassade américaine et, oui.
Et puis,
ancienne bourse.
Le statut de la libération de Budapest par l'armée rouge.
Et qu'est-ce qu'il y a en haut?
Ben, c'est l'étoile rouge, hein.
Ah.
En doré, en version dorée.
Oui, mais ça, je lui dis, ça, c'est un épisode glorieux. C'est un épisode qui vient au crédit des Soviétiques, ça, quand même, de vous avoir libéré du joug nazi.
Ben, écoutez, il y a des gens qui considèrent que c'est une libération, il y a des gens qui considèrent que c'est l'occupation, hein, parce que c'était les deux en même temps.
C'était les deux
ça,
en même temps.
Ça, c'est sûr.
Il faut se méfier des libérateurs. Hein.
Et là, il y a le statut de Reagan.
Non.
Si,
il y a une statue de Reagan. Ah, le petit là-bas.
Ouais.
Oh, le petit regard. Oh, c'est modeste, hein. C'est pas soviétique. Hein. C'est pas les grandes statues soviétiques.
Mais enfin, il marche sur le statut de la commémoration de l'armée rouge, justement très menaçante. Hein. C'est le gouvernement Orban qui a érigé le statut parce que, justement, ça, c'est quand même le côté Orban. C'est qu'en partie, il est contre le grand capital, mais Reagan, il considère que c'est quand même le vainqueur contre le communisme.
Ah bah bien sûr, oui, bien sûr, c'est le grand héros avec son costard. On dirait un mauvais comédien d'Hollywood, ce qu'il était d'ailleurs là.
Il, y a pas de
il est presque à échelle humaine, un tout petit peu plus grand que les normes habituelles. Ronald Reagan, c'est très Hollywood avec son costard en bronze. Et qu'est-ce que c'est derrière là-bas, ce dôme?
Ça, c'est le Parlement.
Ah oui.
Une immense parlement néo-gothique.
Grand parlement, petit pays.
Ou petit pays, grand parlement.
Ça va être le seul endroit au monde où il y a une statue de Ronald Reagan quand même. Hein. Avec le parlement derrière qui lui fait comme une, comme
oui,
une coiffe d'évêque, regarde. Wow, the peoples of Eastern Europe will never forget the grave, responsible and loving tone Ronald Reagan. C'est une déclaration d'amour.
A country boy against the evil empire.
Ronald Reagan, our hero. Oh, c'est un écran tactile. Voices, il va parler.
It's been the greatest
Je me souviens, il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, nous étions à Moscou. Et on s'interrogeait sur les socles des statues qui avaient été enlevées et mises au dépotoir. Mais les socles étaient restés. Les socles étaient restés. On se disait, qui remplacera ces statues-là? Et ben voilà, on a trouvé une réponse, en tout cas, à Budapest,
Ronald Reagan lui-même. Mais c'est pas le seul endroit au monde où il y a des statues de Ronald Reagan. Il y en a évidemment aux États-Unis, mais il y en a en Pologne depuis peu de temps. Ce 21 novembre dernier, inauguré par Lech Walesa, figurez-vous, une statue de Ronald Reagan. Il y en a une à Tbilissi, le pays de Staline, en Géorgie, qui a été inaugurée le 23 novembre 2011. Et puis à Vilnius, en Lituanie, il y a un centre dédié à Ronald Reagan, le président américain, symbole de la libération des pays satellites soviétiques. Qui eût cru qu'il y aurait ainsi ces statues pour remplacer les précédentes, que nous irons voir d'ailleurs à la sortie de Budapest. Il y a un parc où des statues fantômes et des symboles fantômes du communisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un autre aspect de la question. Qu'est-ce qu'on fait des anciens billets de banque chez nous? Les billets de banque périmés ou usagés, que deviennent-ils? Vous vous posez la question de temps en temps? Non? Eh bien, à Budapest et en Hongrie, on a trouvé la solution. On se chauffe avec. Et oui, la banque centrale, nationale, disons, hongroise, fabrique des briques avec des billets périmés, usagés, et elle les déchiquette. Il y a des machines à déchiqueter les anciens billets, et puis elle en fait des briques qui sont utilisées ensuite, qui sont distribuées à des endroits sensibles, des instituts divers et variés, et ça permet de se chauffer. On se chauffe donc avec de la monnaie, avec de l'argent. Et c'est très nécessaire en ce moment parce qu'il y a une vague de froid. Ça s'est un petit peu adouci, mais ces temps derniers, il y a une vague de froid terrible. La circulation a été interrompue sur le Danube et il y a eu pas mal de morts au total dans notre Europe avec cette vague de froid. Alors ça nous intéresse tout ça parce que la situation de la Hongrie, on a pris comme titre Hongrie en marche arrière, on pourrait dire la Hongrie s'enfonce, et s'enfonce notamment dans la misère. Les chiffres sont assez épouvantables. Selon des statistiques Eurostat récentes, 37% des Hongrois souffrent de pauvreté matérielle, 25% de la population consomme très peu de viande. Les deux tiers ne partent jamais en vacances. N'oubliez pas ce chiffre-là, les deux tiers ne partent jamais en vacances, quand on évoquera la vie en Hongrie au temps du communisme. Parce qu'évidemment, on dira « Ah oui, mais on ne pouvait pas voyager à cette époque-là. » Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas voyager. Mais aujourd'hui, voilà, deux tiers des Hongrois ne partent jamais en vacances. 10% ne peuvent pas se chauffer correctement. Et le problème s'est aggravé dans les zones rurales, hors de la capitale, où il est interdit de ramasser du bois mort. Il y a une loi qui interdit de ramasser du bois mort. Heureusement, les gens le font quand même. Alors, ramasser du bois mort, ça veut dire très souvent couper des arbres et même des forêts qui disparaissent de cette façon. C'est quelques indications pour dire la situation très, très préoccupante du pays. Et ce qui fait que la seule opposition possible aujourd'hui, c'est l'extrême droite. Pourquoi ça fait ça? Parce que la gauche, l'extrême gauche sont complètement discrédités. L'extrême gauche, c'est l'histoire qui le veut. La gauche, qui a été le centre-gauche, disons, qui a été au pouvoir ces 20 dernières années, a conduit ce pays là où il en est, là où je le décris, aussi par rapport au pouvoir de Viktor Orban, qui a été élu en 2010, et à son FIDESZ, son parti politique. Eh bien, l'opposition, le seul passage possible pour l'opposition, c'est l'extrême droite, c'est le parti Jobbik, qui est un vrai parti d'extrême droite, extrêmement préoccupant, extrêmement violent, ouvertement antisémite, absolument, on le verra dans le reportage à venir, contre les Roms, romophobes, avec une violence insensée, et c'est une situation assez terrible. Mais ça, nous nous préoccupons de tout ça, nous ici, surtout en France d'ailleurs notamment, nauséabond, ça fait froid dans le dos, ça donne envie de vomir. On a entendu beaucoup ça ces semaines dernières, ces mois derniers, au sujet de la Hongrie. Et sans doute qu'on a raison de s'alerter, d'être vigilant. Il y a peut-être un petit poil d'exagération dans tout ça. Et ça fait assez drôle de dire les mêmes choses que le FMI. Parce que au FMI, on dit la même chose. À la Commission européenne, on dit la même chose. Vous avez entendu la sortie de Danny Cohn-Bendit face à... Et tout ça agace beaucoup, beaucoup les Hongrois. Quels Hongrois ? Ceux que nous rencontrons, nous, c'est-à-dire les confrères, les intellos, les animateurs culturels, les militants divers et variés. Mais si on sort de la ville, ou si l'on va dans certains quartiers de la ville, comme on va le faire aujourd'hui avec Antoine, dans le 8e arrondissement, ben, tout ça, on s'en fout un peu, parce que la pauvreté n'incite pas à la résistance. C'est quelque chose de terrible qu'on ne veut pas forcément voir en face, mais la pauvreté, l'angoisse du déclin, fait que on essaye déjà de vivre, de survivre, surtout en cette saison, et le pouvoir peut s'installer, s'ancrer en toute tranquillité. La Hongrie en marche arrière, c'est jusqu'à 16h, c'est la basse édition. Judith, c'est à cause de toi qu'on est là. On s'est rencontrés à Liège avec le CADTM autour de la question de la dette. On t'a entendu parler de la dette dans ton pays, ici en Hongrie, à Budapest. Et on s'est dit, il faut qu'on aille la voir, il faut qu'on vienne essayer de comprendre ce qui se passe.
Interviewons Cathy aussi. Hein? Interviewons ma copine aussi.
Alors, comment vous vous appelez ?
Catherine Lederer. En français.
Lederer.
En hongrois, oui.
D'accord. Qu'est-ce que vous dites alors sur l'évolution du pays là actuellement, sur la situation ?
Arriéré.
Arriéré ?
Oui.
Ah oui, c'est un retour
Je
en arrière.
Pleure. Oui.
Ici, vous avez un passé. Vous avez un passé fasciste et puis vous avez un passé communiste.
Oui.
Pourquoi est-ce que c'est ce passé fasciste qui revient alors que ça pourrait être le passé communiste qui pourrait revenir ? Pourquoi une telle indulgence vis-à-vis
Attention, le communisme, ça nous a été venu de l'extérieur par l'armée rouge.
Mais imposé vraiment, avec force. Oui.
Alors ça n'empêche qu'il y a des gens qui ont été gagnants dans ce processus, mais ça n'empêche que ce n'était pas une évolution organique de notre pays. Ça, c'est vraiment venu avec l'armée rouge à la fin de la Deuxième Guerre. Alors que notre passé fascisant, n'est-ce pas ? C'est notre passé à nous. Il n'y a pas de mystère.
C'est un passé dégueulasse, mais c'est notre passé.
C'est la nôtre. Il n'y a pas de mystère.
Tandis que le passé communiste vous a été imposé.
Bah oui. 40 années de socialisme.
Alors ça, c'était votre jeunesse, et c'était pas si mal que ça.
Non ?
C'était pas mal du
c'était
tout.
C'était le socialisme.
Ah, pour les enfants, c'était. Oh, pour les enfants, c'était oui. Même pas fait. Hein. Parce qu'avant, tous les enfants avaient droit à des vacances payées par l'État.
Aujourd'hui, il y a de sacrées différences. Il y a des très, très pauvres et puis il y a des riches. Ça n'existait pas. Ouais. Ça, tout le monde le sait.
Est-ce que vous avez beaucoup de nostalgiques de cette époque-là?
Ça dépend. On était jeunes. C'est assez difficile.
De toute façon, ça, c'est une nostalgie. C'est une nostalgie. Mais est-ce qu'on a fait le bilan de ces années-là pour voir ce qui était finalement positif?
Il y en avait qui vivaient mieux et il y avait aussi qui moins bien. On ne pouvait pas voyager, par exemple.
Ouais.
Ça, tu avais droit tous les 3 ans d'aller à l'ouest. Oui. C'est vrai. À cette époque, on était cloîtrés. C'est... Oui.
Nous, on n'est pas maîtres de notre destin, ça c'est clair et net.
Pas
on joue avec
de
nous.
Notre destin. Oui, ça c'est l'essentiel. Oui, oui. Pas maîtres de notre destin.
Comment cette Hongrie, meilleur élève de l'ex-bloc soviétique, c'était la baraque la plus gaie du camp. Comment cette Hongrie, prometteuse jeune démocratie libérale, a-t-elle pu tomber aussi bas dans cet autoritarisme ultra-conservatisme, ultranationaliste, mais aussi ultra-libéral? On en parlera, il y a une comparaison qui a été faite avec Hugo Chavez, c'est plutôt avec Margaret Thatcher qu'il faut faire la comparaison. D'ailleurs, elle vient d'être faite avec la statue de Ronald Reagan. Il y a une chose importante qu'il faut savoir, par exemple, sur la situation qui préoccupe beaucoup plus les Hongrois que leur gouvernement. C'est dans leur vie quotidienne l'histoire des prêts, des emprunts. C'est un peu comme aux États-Unis, vous vous souvenez, les subprimes, bien évidemment, comme en Espagne avec les prêts immobiliers. Eh bien là, il y a entre 600 000 et 900 000 familles hongroises qui sont coincées par leurs prêts immobiliers. Beaucoup ont contracté des prêts immobiliers en Suisse, c'est-à-dire en francs suisses, certains autres en euros ou en dollars. Or, la monnaie hongroise, le forint, s'est effondrée. S'est effondrée et leur dette a plus que doublé. Alors que le chômage s'étend partout à travers le pays et que, au mieux, les salaires sont réduits. Autre chose qui préoccupe beaucoup les Hongrois, l'une des ressources, évidemment, c'est le tourisme. Ça reste une ressource importante. On le disait hier, Budapest est la destination romantique. Mais avec le marasme économique, la pauvreté augmente, les sans-abri sont plus nombreux, et le nouveau gouvernement d'Orbán Viktor a adopté une loi contre les sans-abri qui sera assez gonflé pour oser camper dans les espaces publics. Eh bien, dans ce cas-là, ils sont frappés d'une amende de 480 euros, ou bien, s'ils n'ont pas les moyens, s'il y a des SDF qui n'ont pas les moyens, ça peut paraître bizarre, eh bien, c'est 60 jours de prison. Et en prison, en Hongrie, le travail est obligatoire, sauf pour les SDF. Invalide. La loi est entrée en vigueur le 1er décembre dernier. Selon l'Ordre de Malte, qui est une organisation caritative, vous le savez, il y aurait entre 20 000 sans-abri et 30 000 sans-abri. D'ailleurs, quand on va du centre de la ville à l'aéroport, on longe à certains moments des bois, des petites forêts comme ça, et on aperçoit des cabanes où les SDF qui ont été chassés du centre de la ville essayent de survivre comme ils le peuvent. En 3 semaines, début décembre, 275 SDF ont été ainsi arrêtés, dont 50 parce qu'ils fouillaient dans les poubelles. Et ça, il ne faut absolument pas fouiller dans les poubelles. Un travailleur social qui s'appelle Norbert Ferencz, qui manifestait en faveur, évidemment, de ces pauvres bougres, ces pauvres airs qui en sont réduits à ça, eh ben, il s'est fait choper et il a été condamné à 3 ans de prison
quand même avec sursis. Ça s'est passé en novembre dernier. Voilà, tout ça pour que vous compreniez pourquoi nous sommes rue d'Ankau, dans le 8e arrondissement de Budapest aujourd'hui, dans ce centre d'accueil qui est géré par une école, par une église méthodiste. Pourquoi ces centres d'accueil reçoivent-ils autant de monde ? Eh bien, c'est simplement un SDF dans un centre comme celui-là coûte 1300 forint par jour, alors que s'il est en prison, c'est 8000 forint par jour. Donc, on préfère les voir là que là.
Il y a un petit groupe de personnes qui attend devant la porte de ce centre caritatif. On va voir un peu de quoi ils retournent. Ça a l'air d'être des gens assez esquintés, hein. En difficulté, en tout cas. Ils sont... Et la porte s'ouvre.
La porte s'ouvre.
On y va.
Il y a un monsieur qui nous crache dessus, là. Il veut pas qu'on reste là. Qui nous pousse.
Ouais, c'est des gens assez abîmés, hein. Il faut qu'ils montrent des papiers. C'est assez hallucinant, cette porte de fer, là. S'ouvre toutes les 15 minutes pour laisser rentrer une quinzaine, une vingtaine de personnes.
Ils demandent des feuilles qui attestent qu'ils n'ont pas de maladie.
Alors, le gars, il donne des petits morceaux de papier déchirés, des vieux certificats.
Avec un certificat médical, les gens peuvent rentrer sans. Ils ne sont pas autorisés d'entrer.
Bon, c'est la misère du monde, hein. C'est les pauvres gens qui attendent. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils ont des valises, des ballots, des sacs. Il y en a sur des fauteuils à roulettes, des gens qui sont en très mauvaise santé. Il y a un gars avec une jambe coupée dans cette cour qui a l'air d'être une cour d'une ancienne usine, probablement. Les usines qui ont été vidées de leurs travailleurs se remplissent aujourd'hui avec un peuple déclopé, esquinté.
En Hongrie, il y a 1 million de gens qui sont pratiquement sous-alimentés et qui ont faim sans arrêt. Il y a 3 millions à 4 millions qui sont très proches de la pauvreté sur 10 millions d'habitants. Voilà. Cet appauvrissement nous est tombé sur le pays très rapidement. Ces dernières années, il y a une aggravation catastrophique de l'appauvrissement.
Et là, il y a un baby-foot, là, il y a un tournoi de baby-foot.
Oh là,
goal. 2-1 pour les Bleus. Hop, de partout. Alors, ils attaquent les Bleus, là, et là, c'est les Rouges, là. Contre-attaque, à l'avant, attention, tir des Rouges. Ah, c'est arrêté par le goal, bravo. Et la balle repart dans le camp des Bleus, là, c'est parti. Oh. Attention, là, attaque des Bleus, ouais, but. Malheureusement, c'est les Bleus qui gagnent.
Pourquoi ce serait mieux si c'était les Rouges qui gagnaient.
Il y a tous les âges, hein, quand même, hein, dans la...
Ouais, il y a tous les âges, des hommes, des femmes, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Hein,
ouais.
Les regards sont plutôt fatigués, gênés. Il y a des sourires aussi, hein. Il y a des sourires un peu, ça rigole quand même un peu. Vous avez tout un tas de valises, là, vous partez quelque part ou...
Ok, d'accord. Tu m'as dit qu'il prenait ta quinte d'un côté de notre bain. On peut te tout ça, non. Tu as quitté pendant du lac, de cabane.
Tous ces bagages sont là parce que tous les gens, on se met ensemble et puis après, on va sur un autre centre.
Vous êtes de Budapest?
Non, j'habite dans l'est du pays, à Rakamaz. C'est un village à nord-est du pays.
Et qu'est-ce que vous avez pour vivre là?
Ben, comment vous voulez que je vive, hein, ici? Comment on peut vivre? J'ai travaillé dans mon village. Hein. Il y avait une coopérative pour faire des chaussures. Ah. Une coopérative cordonnier. Et je travaillais là.
Et puis ça a fermé?
Again.
Ouais. Ça a disparu depuis.
Qu'est-ce qui reste comme activité dans le village?
Ninch.
Plus rien.
Egan.
Tout est fermé. Il n'y a plus rien.
Et beaucoup des gens qui sont là, c'est à cause de ça. C'est à cause des fermetures des entreprises, la fermeture des ateliers, des usines.
Peut-être. Mais on ne discute pas entre nous. Je ne peux pas savoir pourquoi les gens sont ici. On ne discute pas de ça, pourquoi on est là.
Alors là, vous attendez, vous allez partir?
Igen. Csak így kell kijönni reggel egy másfél óra hosszára, meg délután egy másfél óra hosszára, mert ilyenkor takarítanak.
On nous donne à manger le matin, midi et soir, et on peut rester toute la journée. Il faut sortir le matin et l'après-midi pour une heure et demie. Pendant ce temps, ils nettoient tout. Ah, mais autrement, on peut y rester toute la journée. Donc c'est bon pour tout le monde qui n'ont pas de revenus ou qui ont des problèmes pour quelque temps. C'est une bonne solution pour tout le monde.
Dites-nous un peu, qu'est-ce que c'est que ce centre là où nous sommes?
Jelenleg egy nappali melegedőben vagyunk, ami azt jelenti, hogy most délután 2-től 5-ig itt a hölgyek és az urak, tehát koedukált itt bent lehetnek.
C'est un centre pour la journée. Ça veut dire que entre 2h et 5h d'après-midi, les hommes et les femmes ensemble peuvent être là et puis se réchauffer.
Qui sont les gens qui viennent ici, qui viennent dans ce centre-là?
Boldog, boldog, talán, tehát ezt így...
Tout le monde peut venir. Il y a toutes sortes de gens.
Tehát mi a Budapesten vagyunk, tehát ez az ország közepe, tehát szerintem itt az udvaron törzsgyökeres budapestinek szerintem a 10%-a csak Budapest, főleg vidékiek, akik...
Comme on est à Budapest, c'est le centre du pays, donc ça veut dire que ici les gens que vous voyez... À peine 10% viennent de Budapest. Les autres, c'est tous des gens qui viennent de province, qui n'avaient pas de travail, il n'y avait rien là-bas, donc ils ont rejoint la ville et puis après, ils ont atterri ici. Comme les Hongrois, il y a des Roumains ou des matiers hongrois, matiers roumains, qui parlent un peu hongrois et qui ont voulu partir plus loin, mais finalement, ils se sont atterris ici.
Főleg éjszakai menedékhely, hogy nem tudok tenni.
Ici, c'est toujours plein.
A lényeg az, hogy ezeknek az embereknek a jelentős része is szegénységbe született, abban is él, és nagy valószínűséggel abban is fog meghalni.
L'essentiel, c'est que c'est des gens qui sont nés pauvres, et qui vont rester pauvres, et puis qui vont mourir pauvres.
Quel âge vous avez?
28.
28 ans.
Impressionnant parce que on a derrière nous là dans cette cour, faut bien imaginer, il y a un ciel gris au-dessus de nous, il fait vachement froid. Ça fait comme une cour d'usine avec des tubulures au-dessus, des tuyaux, de la vapeur. Et là, il y a tous ces gens, ces SDF, ces pauvres, avec leurs pauvres casquettes, leurs sacs en plastique, leurs valises un peu déglinguées et des gueules vraiment marquées par les difficultés quoi, à creuser et tout, qui se mettent en rang. Ils se mettent en rang parce qu'ils vont aller dans un autre local, plus loin, dans la rue. Et ils vont se déplacer, mais ils sont alignés pour celui qui aura le premier arrivé auront les meilleures places. Donc on se met, on s'aligne. Quoi. Et il y a ceux qui jouent peinard au baby-foot, là. Et il faudrait qu'on parle de la tuberculose, parce que là, pour accéder au centre, il faut produire des certificats médicaux indiquant que tu n'es pas affecté par la tuberculose. Ça prouve donc qu'il y a de la tuberculose dans ce pays, quoi. Alors que c'était quand même la maladie éradiquée qui revient que dans les pays pauvres, dans les sociétés pauvres. En Hongrie, là, on est à Budapest, hein. On est dans le 8e arrondissement, c'est un arrondissement dur, pauvre.
Mais on est en plein centre-ville quand même, on
absolument
est à 10 minutes
centre-ville.
À pied, des artères commerciales.
Mais par rapport à des grandes artères, on ne se rend pas compte que tout de suite dans les rues à côté, il y a des centres. Et même quand on promène dans la rue, on ne se rend pas compte que derrière l'immeuble, les portes sont fermées. Et puis, hop, qu'est-ce qu'il y a derrière?
C'est szemű szerető míznat él, elmúlt, nyílik a lilium, illata száll túl a hegyeken. Szép szemű szeretőm, nézd az őz a vízhez lép, lehajtja fejét, iszik és tovasz, jön el illant rég. Szép szemű szeretőm, nézd a tél elmúlt, nyílik a lilium, illata száll túl a hegyeken.
Faut se mettre sur le côté pour laisser passer le. Là, il n'y a plus de bruit. Là, ça s'est calmé. Tout le monde est prêt à partir.
Ils ont fait passer ceux qui sont sur les petits fauteuils roulants devant. Il y a la priorité. Voilà. La petite troupe se met en marche.
Ça y est, c'est parti.
C'est parti. Là, là, c'est la mêlée.
Ça va cavaler.
C'est celui qui sera le premier. C'est vraiment la. C'est la misère du monde. Hein. C'est la vraie misère du monde. Mais il y a des jeunes, effectivement. Il y a toutes sortes. Il y a les tatoués. Il y a ceux qui ont les. Il y en a un qui avait tout l'air du motard en cuir, avec des gants de cuir. Exclusion sociale à Budapest, dans ce centre d'accueil Old Talom du pasteur méthodiste Gabor Ivani, où des centaines et centaines de sans-abri se succèdent à longueur de journée, et on va le voir aussi de nuit. Le gouvernement, la mairie de Budapest essayent de repousser, de camoufler, mais c'est pas toujours possible. Un jour ordinaire dans ce centre d'accueil.
Alors vous restez là ou vous partez avec eux là?
Vous êtes chômeur, vous aussi. Vous êtes deux chômeurs.
Non, j'ai 10 ans travaillé à Pécs, aux Urambas, et à Pécs aussi.
Je viens de Pécs. J'étais mineur dans la mine d'uranium pendant 10 ans.
Hát és ça 10 évig ment. Ugye jött a kormány, a rendszerváltás, ez volt 89-90-ben, és mindenkinek menni kellett gyakorlatilag.
Depuis 86. Jeune. J'ai commencé quand j'étais tout jeune. La mine a fermé en 97. Tout le monde devait partir.
Vous avez eu des indemnités de chômage?
A radon véget, a balherémet azt kiszedték, meg a lábamon is gondolt, stb. Tehát ez meglátszott már az idő során.
Comme j'étais abîmé à cause de l'uranium, sur une de mes jambes, et puis aussi sur une de mes testicules, j'ai été opéré, on me l'a enlevé. Donc j'ai eu l'invalidité. Parce que ça a été reconnu comme maladie professionnelle.
Hát ez nem volt egy olyan nagy összeg. Hát én nekem 40 éves, akkor kaptam olyan 63 ezer forintot. De hát az is arra volt elég, hogy vegetáljon az ember.
À l'époque, j'avais 40 ans, et j'ai reçu 63 000 forints. C'était rien. Très peu.
És a többi jött az Orbán, és az Orbán most megmondta, hogy mindenkitől elveszi a nyugdíját. Nem megmondta egy szó szerint, de hát erre megy ki a lépés.
J'ai eu une retraite d'invalidité de 67 000 forints. Mais avec le gouvernement maintenant, ils vont réviser toutes les invalidités, et là, je touche plus rien.
Ah, plus rien. Suppression des primes d'invalidité dans un cas comme le vôtre, où il y avait une invalidité due au travail dans la mine et dans une mine d'uranium. C'était une compagnie privée ou c'était une entreprise publique?
La mine appartenait à l'État. Mais à l'époque, c'était à l'époque socialiste. Donc, bien sûr que c'était à l'État.
Quand vous étiez mineur, vous aviez combien par mois? Quel était votre
salaire?
Pour l'époque, je gagnais assez bien.
Bien, qu'est-ce que vous faites là, dans ce centre pour SDF là?
Je suis commissionnaire.
C'est une question. Tengőt.
Ben, c'est une bonne question, je fais rien. J'attends que le temps passe. Je vais au sud populaire.
C'est-à-dire que vous n'avez plus de revenus du tout?
Non, rien.
Donc vous vivez ici, dans ce centre?
On peut dire.
Ouais. Depuis longtemps alors?
Depuis 96, on peut dire.
Depuis votre licenciement, vous n'avez pas retrouvé de boulot et vous êtes comme ça devenu SDF?
Il faut partir là, il faut sortir. Et après 5 heures, à nouveau, ils vont rentrer.
Là, c'est un petit réfectoire. Il y a des tables en bois. Si c'est que du carrelage blanc au mur, du vieux carrelage blanc. Et il y a deux, trois petites armoires avec des cadenas aux portes. Et les gens attendent là au chaud.
La plupart d'entre vous, vous êtes là pour des raisons liées à l'emploi.
Pratiquement tout le monde.
C'est 90% vont là parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils sont au chômage. Hein.
Par exemple, vous, depuis quand vous êtes au chômage?
Depuis 5 ans. J'ai travaillé pour une entreprise qui a fermé depuis.
C'était quoi comme boîte?
C'était une boîte de télécommunication.
Et c'était une entreprise publique ou privée?
À l'origine, c'était une boîte d'État. Ça s'appelait la télécommunication hongroise. Au moment où on a privatisé, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été renvoyées.
Et vous, vous aviez commencé quand là-dedans, dans cette boîte?
Jusqu'à 85, j'ai fait des études. Mm-hmm. Et puis après, je suis rentré dans le télécom. Mm-hmm. Et puis j'y ai travaillé jusqu'à 90.
Et là, quand on a privatisé, vous vous êtes fait virer?
Premier pas, c'est on a transformé la société en société anonyme. Après, on a démembré, on a créé beaucoup de petites sociétés. Et avec ces petites sociétés qu'on a commencé à renvoyer les gens. Après, je n'ai plus trouvé d'emploi correct. Il n'y a qu'au noir que j'ai pu trouver.
C'est-à-dire sans sécurité sociale, sans assurance maladie, sans retraite, sans rien.
Sőt, még az volt a kockáztat, hogy fizetnek vagy nem fizetnek. Mert legtöbb esetben az volt, hogy nem fizettek.
Bien sûr, j'ai aucune cotisation derrière, mais le pire, c'est qu'on faisait du travaux et puis après, on n'est même pas payé.
Et vous avez une famille, des enfants?
J'ai de la famille. J'habite en province.
Si ce n'est pas indiscret, qu'est-ce que vous avez comme revenu maintenant?
Comme je n'ai pas de travail du tout, je n'ai pas de revenu du tout.
Alors comment vous faites? Ben, vous vivez dans ce foyer, vous débrouillez dans ce foyer. Et vous trouvez des petits boulots quand même de temps en temps ou...
Néha alkalmi munkát elvál az ember, pár ezer forintért egy minimális összegé.
Temps à autre, je trouve quelque chose, j'accepte, hein, quelques milliers de forint, je reçois, puis c'est tout.
Et avec le nouveau gouvernement là, c'est mieux ou c'est pire?
Hogy nem lehet az utcán tartózkodni, mint ahogy tettek volna azért, hogy amit mondanak, hogy nem lehet az utcán tartózkodni, akkor egy elhelyezést tudtak volna biztosítani.
Ezek ont déclaré qu'on n'a pas le droit d'être dans la rue. Mais ils n'ont rien fait pour qu'on ait une place où aller.
Hát az új törvény szerint úgy kezdődött el, hogy az új törvény szerint nem lehetett az utcán aludni, büntetést kell nekik fizetni 50.000 forintot. De hogyha nem dolgoznak, miből fizessék ki? Elhelyezni is viszont nincs, hogy el tudják őket helyezni.
C'est-à-dire que la loi maintenant, si je dors dans la rue et on m'attrape, à ce moment-là, j'ai une amende de 50 000 forints. Mais si je n'ai pas de travail, comment je peux le payer? Et ils n'ont pas créé des places pour dormir. Il n'y a pas plus de places pour dormir. Depuis l'année passée, c'est comme ça.
Les embereket, hogyha nem tudnak fizetni, nem tudják a büntetéseket kifizetni, akkor közmunkából ledolgoztatják. Hát most, ha azt a közmunkát miért nem tudják úgy megoldani, hogy a közmunkát kifizetnék az embereknek, arra költik, amire akarják.
Ils nous menacent que si on n'arrive pas à payer l'amende, à ce moment-là, on nous oblige à travailler pour la collectivité. Mais si on nous oblige à travailler pour la collectivité, pourquoi ils ne nous payent pas? Pourquoi ils ne nous donnent pas ce travail? Pourquoi ils ne nous payent pas?
Dix minutes. Ah, on peut pas sortir. On va attendre 10 minutes.
Ah bon, on peut plus sortir?
Tous les 15 minutes.
C'est quand même assez formidable l'endroit où on est. On est devant une porte de fer. On est à l'intérieur donc de ce foyer, de ce centre pour SDF où ils peuvent venir se reposer, manger, se laver quelques heures. Mais si on regarde par cette petite meurtrière, 4 petits trous, on voit les gens qui sont à l'extérieur et qui attendent pour entrer. Il fait quand même autour de 0. Et ils sont dehors, ils attendent. Et tous les quarts d'heure, la porte s'ouvre. Et pour entrer, il faudra qu'ils fournissent des papiers, dont des preuves montrant qu'ils ne sont pas atteints par la tuberculose.
Et voilà.
Merci, merci, on peut sortir.
Il y a une petite dizaine de personnes qui sont là. Et voilà, ils rentrent un par un. Donc il y a un jeune homme qui vérifie.
C'est assez pathétique ce qu'on voit là. Hein. Le jeune homme de l'association qui examine les papiers, il a des gestes de ceux qui examinent les papiers, c'est-à-dire des gestes de flic. Lui, il est refusé. Ah, il ne faut pas être bourré. Alors l'alcoolique, il se barre. On ne veut pas de lui.
Et il va rester dehors.
Il va rester dehors.
C'est l'alcool pour cela aussi. Pour la plupart, en fait, la plupart des gens qui étaient là n'ont pas pu rentrer. Parce qu'ils sentent l'alcool, simplement. Ouais. Il est 6 heures, c'est la nuit qui tombe et... Il commence à faire très froid, quoi.
Alors,
ça, c'est un jeune homme hein, qui a un sac à dos et une petite valise à roulettes et qui essaye de. Qui cherche dans une liasse de papier, certainement le certificat médical qu'il ne trouve pas, pour pouvoir rentrer, se mettre au chaud, quoi.
C'est-à-dire que s'il est malade, c'est la rue, quoi. Il reste dans la rue.
On les soigne. Ça, c'est Soros qui a donné l'argent.
Soros. Quel monde de merde.
Exactement.
Quel monde de merde.
Au moment où la tuberculose a recommencé, Soros a donné l'argent pour que... Parce que tout le monde paniquait dans tous les pays. Alors ils ont dit, bon, non. On cantonne la maladie hein, pour les gens qui sont les plus pauvres.
Il ressort un nouveau papier, là. Est-ce que ça va être le bon, cette fois-ci? Il regarde. C'est bon. Là, il range son petit portefeuille.
L'autre, il négocie.
Et ça y est, il est rentré avec sa petite valise à roulettes. Il a passé la porte en fer.
L'autre, il ne le laisse pas rentrer. L'autre lui dit que non, c'est pas maintenant que j'ai bu, ça y a longtemps.
Il va fermer la porte. Voilà, il y en a 3 qui restent dehors. Tu pleures, Judith?
Ah non, mais... On y va?
On y va, ouais.
Merci à Judith Morva, notre traductrice. Merci à Cathy Lederer. C'était le deuxième volet de notre série La Hongrie en marche, un reportage à Budapest avec Antoine Chao. J'ai une nouvelle là, c'est Nokia, l'entreprise Nokia, qui annonce des suppressions de 4 000 emplois, dont 2 300
en Hongrie. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis, sur le site labas.org, la-bas.org également, ainsi que sur notre page Facebook La Technique aujourd'hui. Sandrine Laurent et Philippe Duclos, Bertrand Chameton et Franck Aderer ont réalisé cette émission, assistés de Marina Touillez et Grégory Salomonovitch lui-même. Attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
J'ai rêvé qu'on était en hiver, qu'il faisait chaud et que j'étais...
Chez moi, à profiter du couplage solaire et gaz naturel.
Parce que tu te chauffes aussi au gaz naturel ? Pourtant le soleil c'est bien gratuit.
Oui, sauf qu'en hiver, quand le soleil met sa petite laine, il faut bien que le gaz naturel prenne la relève. J'ai choisi ce couplage pour faire des économies d'énergie et rejeter moins de CO2.
Tu me fais rêver.
Ah mais je l'ai choisi mes rêves moi.
Pour en savoir plus, appelez le 0810 124 125. Prix de l'appel selon l'opérateur. Gaz de France Dolce Vita, une marque de GDF Suez. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Vous aimez lire ? Vous avez envie d'être juré du Livre Inter 2012, présidé par Amélie Nothomb. Alors, écrivez-nous, parlez-nous de vous, de vos lectures. Conseil de la présidente.
Soyez vrai, ça a l'air un peu de tarte à la crème comme conseil, mais on ne peut pas donner de meilleur. On est déjà un artisan quand on écrit une lettre. Le papier n'est pas virtuel, c'est de la matière. Et donc on met plus de soi, on s'investit davantage, on est forcément plus vrai.
Vous avez jusqu'au 20 février inclus. Livre Inter, France Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris CEDEX 16.
France Inter, partenaire des Francofolies de La Rochelle, du 11 au 15 juillet. 5 jours de live, plus de 130 concerts. Benabar, Camille, Charlie Winston, Hubert Félix Thiéphen, Thomas Dutronc, Laurent Woulzy, à retrouver dans le programme musical de France Inter. Renseignements au 05 46 50 55 77 sur francofolie.fr et sur franceinter.fr.
Alors, on parle souvent de la dette dans la base où j'y suis. La dette ou la vie, l'ouvrage collectif du CADTM, sous la direction de Damien Millet et Éric Toussaint, vient d'être réédité aux éditions Aden. Il est 16h sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour la base où j'y suis, Hongrie en marche arrière. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut!
. 357 personnes ont été tuées la nuit dernière dans l'incendie d'une prison au Honduras, à Comayaga, à 75 km de la capitale Tegucigalpa. Les victimes sont pour leur majorité des détenus pris au piège dans leurs cellules. Le directeur de la prison dément aujourd'hui qu'il y ait eu une mutinerie dans l'établissement. En France, la contraception gratuite pour les mineurs, un rapport signé notamment par le gynécologue Israël Nizan, demande aujourd'hui à la Sécurité sociale et aux labos pharmaceutiques un effort conjoint donc pour permettre aux adolescents d'accéder gratuitement à la contraception. La proposition est soutenue par la secrétaire d'État à la jeunesse, Jeannette Bougrabe. Le but, c'est de baisser le nombre d'avortements et de grossesses non prévues chez les jeunes filles. Voilà qui devrait donc relancer le débat sur la contraception pour les jeunes. Celui sur l'euthanasie a lui été relancé ce matin avec la remise au gouvernement d'un rapport contesté sur la fin de vie. La psychologue Marie de Henzel a démissionné de l'organisme qu'il a rédigé, au nom, dit-elle, de la compilation d'études, alors que selon elle, il y a urgence à savoir où sont les blocages de la loi Leonetti de 2005. Dans son rapport, l'Observatoire national de la fin de vie, elle dresse le constat de la méconnaissance générale de cette loi, un dispositif qui interdit l'acharnement thérapeutique et qui instaure le droit au laisser-mourir. 1300 pompiers professionnels ont manifesté aujourd'hui dans les rues de Paris. Ils protestent contre une réforme de leur statut. La réforme en question vise à rapprocher l'organisation de la filière des sapeurs-pompiers de celle de la fonction publique territoriale. 30 professeurs jury d'agrégation de mathématiques ont démissionné aujourd'hui. Ils protestent contre la destruction du système de formation et de recrutement des enseignants. Avec la mise en place en 2010 de la masterisation, il y a selon eux une désaffection croissante des étudiants pour le métier de professeur. 160 mètres de haut, 90 salles d'audience, naissance prévue pour 2017 dans le quartier des Batignolles dans le 17e arrondissement de Paris. Le nouveau palais de justice de Paris a donc été présenté aujourd'hui, le projet en tout cas. C'est Bouygues qui en assurera la construction selon la formule du partenariat public-privé pour un montant total de 575 millions d'euros. Le futur palais de justice est destiné donc à remplacer l'ancien sur l'île de la Cité qui, avant de devenir un palais de justice, fut l'ancienne résidence royale de Saint-Louis il y a près de 700 ans. Les bateaux de Seafrance seront bientôt vendus. Le tribunal de commerce de Paris a désigné aujourd'hui un courtier spécialisé dans le négoce de navires. Il aura pour charge de vendre les 3 navires de l'ancienne compagnie de ferry Transmanche. Chaque navire coûte environ entre 150 et 200 millions d'euros. À propos de navires, la compagnie maritime italienne SDS Navigation SRL a été condamnée aujourd'hui à 750 000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Marseille. Motif dégazage sauvage en Méditerranée de l'un de ses navires en 2010. Quand les policiers ont froid aux oreilles, c'est très sérieux. Le syndicat Unité Police SGPFO demande aujourd'hui que la tenue des policiers soit en adéquation avec la météo. Comprenez, en période de grand froid, les policiers doivent pouvoir être équipés de bonnets de laine. La lettre a été envoyée hier au directeur des ressources et des compétences de la police. Durant les 15 derniers jours de grand froid qui viennent donc de passer, les policiers, dit le syndicat, ont été obligés de porter des coiffes personnelles. Sympa. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Demain, France Inter poursuit son tour de France.
Avant l'échéance présidentielle de 2012,
les émissions de France Inter s'installent dans 12 villes de France.
Demain,
en direct de Strasbourg,
à la rencontre des auditeurs et citoyens,
retrouvez la matinale de Patrick Cohen,
Pascal Clark,
rendez-vous à partir de 9h10, Downtown de Philippe Collin et Xavier Mauduit.
Bonsoir, on vous écoute.
Et le téléphone sonne d'Alain Bédoué.
Le tour de France de France Inter.
12 mois,
12 villes,
12 éclairages.
Venez nous retrouver demain, en direct de la grande salle de l'Aubette, 31 Place Kléber à Strasbourg.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter.
La différence.
Allez, c'est à vous, Frédéric Lodéon.
Bonjour, bonjour. Laetitia, bonjour. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, ils étaient tous les deux très doués, Charles-Valentin Alcan et Franz Liszt, ils vivaient à peu près à la même époque. Alcan né en 1813, Liszt en 1811, on l'a assez célébré l'année dernière, enfin assez beaucoup, mais ce n'est pas fini bien sûr. Et pourquoi un a fait carrière, Franz Liszt a fait une carrière absolument internationale, tapageuse parfois, légendaire souvent. Et Alcan lui, qui aurait pu être un virtuose fêté aussi, il est resté un petit peu méconnu, mais le caractère d'Alcan était, paraît-il, assez difficile et il n'aimait pas trop ses prestations devant un grand public. Il est arrivé à jouer quand même une fois avec Franz Liszt, salle chanteraine, pour un grand concert à 4 pianos. Mais enfin bon, ça n'a pas eu la même trajectoire, son existence. Ça n'a pas fleuri de concert, n'a pas eu cette incroyable végétation de concert, si j'ose dire, et de triomphe de par le monde. Néanmoins, Alcan est quand même très intéressant. On raconte, on n'y était pas, mais enfin, qu'il est mort écrasé par sa propre bibliothèque, il cherchait un livre en haut d'un meuble et puis tout se serait écroulé sur lui. Il n'y avait pas assez de reportages à l'époque, ni de téléphones portables qui font des photographies. Néanmoins, un compositeur très intéressant, donc je vous propose un peu du final à la Saltarella, donc comme une saltarelle, comme une danse qu'on peut danser en sautant dans le sud de l'Italie, de Charles-Valentin Alcan. Thank you. Le final à la Saltarella, donc comme un saltarello de Alcan, Charles-Valentin Alcan, interprété au violoncelle par Emmanuel Bertrand avec Pascal Amoyel au piano. Alors Emmanuel Bertrand, jeune maman d'ailleurs, violoncelliste magnifique, vous l'avez entendu, va jouer avec l'Orchestre National d'Île-de-France, dirigé par Marc Minkowski et son assistant Benjamin Lévy. Et c'est pour une bonne œuvre, donc c'est demain, 20h15, salle Gaveau à Paris, toujours au même endroit bien sûr, 45 rue de la Boétie, dans le 8e métro Miroménil, c'est le meilleur moyen, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, il y a aussi un parking si on veut, mais enfin, moi j'aime bien le métro, c'est tout à fait à côté comme ça. Donc demain, c'est un concert exceptionnel de musique classique, mais purement classique, et même contemporaine, parce qu'il y a une œuvre d'Olivier Greff, qui nous a quitté il n'y a pas longtemps, jeune compositeur, il est mort à 50 ans, je considère que c'est encore assez jeune, il y aura du Debussy, donc du Greff, un concerto pour violoncelle, et puis la grande suite de Casse-Noisette de Tchaïkovski, avec notre cher violoncelliste, donc Emmanuel Bertrand, et l'Orchestre National d'Île-de-France pour l'œuvre de secours aux enfants. Alors c'est une œuvre qui est née donc en 1912, il y a 100 ans. Elle a participé au sauvetage de milliers d'enfants juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, et puis elle s'occupe maintenant de l'enfance, du handicap, de la santé, du grand âge, et du soutien aux survivants de la Shoah. Et il faut se rappeler le professeur Eugène Minkowski, le professeur Minkowski qui était très très fameux, grand médecin, et était le grand-père de Marc Minkowski, chef d'orchestre aujourd'hui, et Eugène Minkowski a été un des héros du sauvetage des enfants et a assuré la direction clandestine de